Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et donc, bonjour monsieur, voilà, après la publicité. Alors, vous vouliez évidemment, après le meurtre de Liana et la constatation que la colère populaire prend de l'ampleur, revenir sur cette colère. Comment voyez-vous la suite des événements ?
Oui, bonjour Richard. Écoutez, je pense que l'on peut parler dans les faits d'une révolte populaire qui s'installe et qui d'ailleurs pourrait perdurer, même si naturellement les vacances arrivent actuellement. Mais enfin, je vois qu'il y a une grande manifestation qui est prévue à Paris le 4 juillet. J'imagine qu'il y aura beaucoup de monde parce que le phénomène est d'ailleurs est très intéressant à observer dans la mesure où ce sont des familles aujourd'hui, c'est-à-dire des pères et des mères, qui se mobilisent, qui sont révulsés par l'indifférence qui a été portée depuis maintenant des années, des décennies, aux pratiques pédophiles qui avaient été encensées naguère il n'y a pas si longtemps, encore dans les années 90, par l'intelligentsia, au nom de la libération sexuelle. Je ne vous parle pas, je ne vais pas revenir sur les pétitions qui étaient parues sur ce sujet, défendant les pratiques pédophiles, pétitions parues dans Libération ou dans Le Nouvel Observateur, par exemple. Et comme l'a remarqué hier dans un papier du Figaro la philosophe Chantal Delsol, c'est la société civile elle-même qui exige de ces élites avachies, qu'elles prennent conscience enfin de leur immoralité, hein, concernant en tout cas leur indifférence face à la pédophilie. Et c'est cette même société civile qui avait mis dans les rues en 1984 2 millions de personnes pour la défense de l'école libre, qui avait mis également des millions de personnes, peut-être un peu moins, contre le mariage homosexuel, qui s'était retrouvé également dans les rangs des premiers gilets jaunes. En tout cas, donc, on voit que cette société civile, quand elle décide de descendre dans la rue, peut ébranler le pouvoir. Et d'ailleurs, le pouvoir le sait naturellement, particulièrement. Et si le président de la République a dit une énormité en déclarant que, avec le manque d'empathie qu'on lui connaît, on ne répond pas à un drame, à ce genre de drame, par des cris. Si, on répond à ce genre de drame par des cris, précisément. Il faut hurler maintenant pour que ces familles se fassent entendre. Et le gouvernement, au-delà du président de la République, a bien compris quel était aujourd'hui le danger. Et il est en train de ressortir en urgence des réformes qu'il aurait dû faire depuis très longtemps. Et d'ailleurs, on voit que même le sujet de la peine de mort, qui était tabou encore jusqu'il y a peu, a à nouveau été évoqué la semaine dernière, notamment par Nicolas Dupont-Aignan, qui proposait un référendum sur ce sujet. Et je constate que 68% des sondés souhaitent en tout cas un référendum. Je ne sais pas s'ils souhaitent le rétablissement de la peine de mort pour les crimes commis sur des enfants, mais en tout cas, le référendum est quelque chose qui est également souhaité. On voit que les magistrats également, qui s'étaient enfermés dans leur tour d'ivoire, sont prêts à tous les mea culpa, d'autant que la procureure d'Auch, dans le GER, est au centre d'une enquête administrative sur la passivité de sa réaction et a été mise sous protection policière. Bref, la panique se lit chez tous ceux qui ont failli dans leur mission de protection de la société. Et l'on voit que les juges se rattrapent actuellement sur Patrick Bruel, qui était encore encensé dans les années 90 par une Bruel mania qui, effectivement, mettait en valeur son sex-appeal. En tout cas, il y avait des grandes manifestations de groupies qui étaient répercutées à l'époque par la presse. Donc, on voit qu'il y a là aussi un changement, en tout cas un changement d'époque. Et hier soir encore, il y a eu de grandes manifestations un peu partout devant des tribunaux, singulièrement d'ailleurs, place Vendôme face au ministère de la justice. J'ai vu qu'une mère d'enfant violée, Laurence Jambu, a lancé une pétition qui rencontre beaucoup de succès et qui réclame la fin de la confusion des peines pour les pédophiles. Car en effet, il y a une confusion des peines pour l'instant pour les pédophiles et sa fille adoptive qui a vu son violeur revenir dans son quartier en mai dernier alors que ce violeur avait été condamné à 30 ans de réclusion, mais avec la confusion des peines, il avait déjà été condamné à 15 ans précédemment, il est sorti au bout de 8 ans. Donc il y a une aberration également dans la pratique judiciaire et dans ces applications des peines. Donc pour l'instant, je constate que les Français ulcérés, ces Français qui révoltaient, maîtrisent leur colère. Ils ne vont pas jusqu'à ce qui se passe en Grande-Bretagne où l'on a vu des grandes manifestations violentes s'en prenant même parfois à des immigrés qui ont eu lieu notamment à Southampton ou à Belfast après que des autochtones aient été agressés parfois mortellement par des immigrés. Je constate que pour l'instant, la France reste sur sa réserve et ne va pas jusqu'à ce point-là, mais on voit aussi que la question de l'immigration s'ajoute à celle des enfants victimes et les sources de colère se multiplient ainsi à l'infini.
C'était justement ma question suivante, mais merci de l'anticiper. On voit qu'il n'y a pas que la justice et qu'en fait la marmite boue. Et quelles sont les autres sources, hormis l'immigration, de cette colère française ?
Je trouve que toutes ces colères, si vous les observez attentivement, ont comme dénominateur commun un même sentiment d'abandon des citoyens par le système politique, le système judiciaire, le système médiatique. Vous savez, il y avait un mot d'ordre qui a été lancé il y a 10 ans par les féministes, le « me too », le « moi aussi », qui était destiné à faire entendre la parole des femmes. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce mot d'ordre « me too » peut se décliner désormais pour également faire entendre et être attentif aux violences faites aux enfants, mais également aux vieilles dames, parce qu'il y a également des agressions de vieilles dames qui se multiplient, plus généralement d'ailleurs aux agressions des vieux. Et je suggère, dans ce même ordre d'idée, d'élargir ce « me too », ce mot d'ordre « moi aussi », là, également à toutes les violences faites désormais aux Français indigènes, aux Français, à tous ces Français qui sont de plus en plus les cibles d'une nouvelle France qui a été élevée idéologiquement, singulièrement par la France insoumise, dans le ressentiment contre l'ancienne puissance coloniale que fut la France. Vous avez peut-être vu que jeudi dernier, une grande banderole a été déployée sur la façade de la nécropole des rois de France à Saint-Denis avec ce mot inscrit en gros « remigration ». Le message était évidemment adressé à l'extrême gauche et à Jean-Luc Mélenchon qui a fait de Saint-Denis la vitrine de sa nouvelle France créolisée, de sa nouvelle France en réalité islamisée. Mais la presse moutonnière y a vu immédiatement un acte de racisme en reproduisant la pensée automatique qui interdit de critiquer l'immigration de masse. En réalité, il n'y a rien de raciste dans cette évocation d'une remigration qui doit devenir, je pense, un sujet permis, en tout cas dans les débats. D'ailleurs, je préférerais, moi, personnellement, que l'on parle plutôt de rapatriement que de remigration, dans la mesure où ce que je comprends en tout cas de la remigration serait de rapatrier chez eux les étrangers qui sont indésirables et qui ont en général ont commis des crimes ou des délits. Mais déjà, de ces interdictions de pensée sur ces grands sujets qui taraudent la société civile et qui alimentent la colère, et ces aveuglements obligés sur le basculement identitaire et civilisationnel qui s'observe, font partie de ces violences que subissent les Français qui en ont marre d'être traités de racistes, comme l'a fait il y a 2 jours Xavier Bertrand en déplorant que le sort réservé aux non-blancs et aux musulmans, en laissant comprendre que les Français en seraient les responsables. Un pays qui accueille 500 000 personnes par an est un drôle de pays raciste. Et le Figaro, d'ailleurs, a fait récemment aussi une très bonne démonstration du biais idéologique qui a rempli l'INED. L'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques. Et l'INED aujourd'hui fait partie de ces institutions qui nient la submersion migratoire qui crève les yeux de tout le monde. Alors même que Alfred Sauvy, qui était le créateur de l'INED, avait annoncé dès 1987, dans un livre qui s'appelle « L'Europe submergée », que l'Europe serait submergée dans 30 ans. On y est. Donc, c'est tout ce monde mensonger qui est devenu insupportable à beaucoup, et en tout cas à moi aussi. Je fais partie de ceux qui sont maintenant révoltés par cette société du mensonge. Donc, en fait, nous assistons, dans le fond, au réveil attendu, enfin, au réveil espéré de cette société civile, de cette France des oubliés, et l'échéance présidentielle tient lieu encore aujourd'hui de soupape pour prévenir naturellement les grandes violences qui peuvent se voir ailleurs. Encore faudrait-il que les juges et les politiques cessent de jouer avec des allumettes sur un dépôt d'explosifs. Et dans ce contexte et de ce point de vue, il me paraît envisageable, et ce sera ma conclusion, que les juges renoncent le 7 juillet à entraver le parcours de Marine Le Pen afin d'éviter une indignation supplémentaire d'électeurs qui seraient cette fois privés naturellement de leur vote.
Alors, merci pour votre conclusion. Il nous reste 2 minutes. Très rapidement, vous pensez que si Marine Le Pen ne se présente pas et que Jordan Bardella est désigné par le Rassemblement national, il y aura quand même une colère de la part des électeurs du Rassemblement ?
Je pense que, en tout cas, la colère s'aggravera si les juges s'immiscent à ce point dans un processus démocratique et empêchent le peuple, tout simplement, de s'exprimer à travers un vote. Et donc, oui, je pense que la colère qui est à deux doigts de descendre dans des rues, elle va descendre dans des rues le 4 juillet, pourrait s'exacerber. Il me semble que la sagesse, mais en même temps c'est une hypothèse d'école que je pose, mais je me mets à la place de la justice qui doit écouter malgré tout la rue, même si elle juge en droit, j'en suis bien d'accord, et que le jugement de Marine Le Pen se fera en droit, mais il se fera aussi en opportunité et en fonction de la prévention du désordre public. Et il me semble que les juges seraient bien avisés, d'autant que ce n'est pas leur rôle que d'avoir à mettre des bâtons dans les roues d'un processus démocratique en violation de la séparation des pouvoirs, tout simplement. Ils seraient bien avisés, me semble-t-il, de ne pas condamner Marine Le Pen, elle sera peut-être condamnée si elle est condamnable, ce n'est pas le problème, mais de laisser faire aujourd'hui la voix des Français, de laisser s'exprimer la voix des Français qui en ont plein le dos, si je puis dire, d'être à chaque fois expropriés de leur identité, de leur pays, de leur nation et maintenant de leur vote.
Merci beaucoup Yvan Rioufol et effectivement on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Merci et à la semaine prochaine.
Merci à vous.
Ligne droite, l'analyse.
Et l'analyse, c'est avec Mériadec Raffray, rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Bonjour Mériadec.
Bonjour Richard, comment allez-vous ?
À merveille, et vous ?
Écoutez, lorsqu'on parle de paix, ça va toujours mieux. Je vais toujours mieux que lorsqu'on parle de guerre. Donc c'est une... même si il y a des paix qui sont perfectibles, voire même des mauvaises paix, il n'empêche que les armes cessent, le sang cesse de couler, et que surtout, parce que là vous allez me dire que je deviens pacifiste et vous ne me connaissiez pas comme ça.
Non.
Surtout, en fait, il est possible à nouveau de trouver des chemins pragmatiques pour articuler en fait des intérêts qui sont divergents, voire même opposants. C'est ça qui est intéressant dans ce dossier, évidemment, dont on parle aujourd'hui, irano-américain, c'est que on peut critiquer Trump, et je vais le faire avec vous, évidemment, je vais critiquer cette guerre. Mais c'est toujours très intéressant avec les Américains, autant ils sont capables d'aventurisme guerrier, autant ils sont capables de manière totalement pragmatique et opportuniste, quand ils décident de stopper les frais, puisque là, en l'occurrence, ce sont des frais, ils le font aussi, c'est-à-dire qu'ils savent, alors j'allais dire arrêter une guerre, en tout cas ils savent arrêter la force pour faire à nouveau parler, la diplomatie, le chantage, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ils sont capables de changer de posture de manière assez pragmatique et opportuniste à un moment où ils jugent, en regardant les termes de l'équation, que l'équation est davantage favorable à la discussion, à la diplomatie, à la reprise des pourparlers plutôt qu'au... Et ça, ça m'a toujours... Je trouve qu'avec Trump, c'est toujours assez fascinant. Donc, à la fois, il y a le côté extraverti, avec cette capacité à faire parler des armes sur des critères, à partir de critères dont qui peuvent être très discutables, et surtout, ouvrir des guerres en montrant de manière évidente qu'on n'est pas en mesure, qu'on ne souhaite pas aller jusqu'au bout du processus guerrier qu'on a engagé, hein, puisqu'on a bien vu que le 28 février 2026, lorsque la force aérienne, l'extrême puissance de la force aérienne américaine a ouvert le feu depuis les airs sur l'Iran, on comprenait aussi très bien, en tout cas tous les experts le savaient très bien, c'est que pour Washington, il était hors de question de prolonger ce qui fait l'efficacité d'un bombardement aérien, d'une campagne de frappe aérienne, à savoir la prolongation par une action terrestre. Car dans l'histoire contemporaine des conflits contemporains, il n'y a jamais eu d'exemple montrant qu'une seule campagne aérienne aussi brutale, puissante et longue soit-elle, soit en mesure de faire évoluer le cours politique des choses, si vous voulez. En tout cas, à court terme. À long terme,
on peut discuter. Même à long terme. Les bombardements stratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale n'ont pas réussi à aucun moment donné à changer le cours de la guerre.
Il y a une seule exception notable à cela, c'est l'emploi de la bombe atomique au Japon.
Ah oui, mais ça c'est...
Qui, voilà, c'est, oui. C'est l'arme
La bombe
ultime,
atomique, ça change
voilà,
la donne. Oui.
Voilà, mais et donc, Washington aujourd'hui, finalement, c'est, comment dirais-je, après avoir donné le tempo du conflit, de la guerre en Iran, Washington s'est rangé au tempo réactif, en réaction, donné par les Iraniens. Les Iraniens qui ont évidemment énormément souffert militairement de cette campagne aérienne, mais que, je l'ai expliqué plusieurs fois ici, ont décalé leur réponse face au fort. Ils se sont enterrés, ils ont mis la tête dans leurs épaules, ils ont laissé passer l'orage d'acier et de fer et de feu qui leur est tombé sur la tête, tout en préparant une riposte décalée qui consistait à entraîner les Américains dans le piège du détroit d'Ormuz, en fermant le détroit d'Ormuz et en défiant les Américains, en leur disant, messieurs les Américains, maintenant, venez ouvrir de force le détroit d'Ormuz, ce que les Américains n'ont pas fait. C'est, voilà, il y a eu ces deux temps. Le deuxième temps, le second temps, c'est, vient de se conclure provisoirement par cet accord dont les journalistes américains bien informés disent qu'il ne ferait qu'une page, une page et demie de long. C'est vous dire que c'est vraiment un accord minimal, a minima, minimaliste, mais qui permet de manière pragmatique de tourner la page en fait du conflit ouvert par les Américains avec évidemment le soutien et l'accompagnement israélien. Conflit qui a eu, que je rappelle, qui a eu deux phases, hein, 28 février et 8 avril, une campagne aérienne de 40 jours de bombardement sur le pays, suivie d'une espèce de 68 jours d'une trêve armée, pour la qualifier, avec un contre-blocus américain à partir du 13 avril qui s'est terminé, qui s'est prolongé par le fameux projet Liberté du 6 au 8 mai qui consistait pour les Américains à tenter d'aller chercher des navires alliés de l'autre côté des détroits d'Ormuz. Au bout de deux jours, ils ont compris que les Iraniens étaient en mesure et ne céderaient rien, quitte à aller de nouveau à l'escalade. Ils ont donc replié leur goal et se sont contentés d'un blocus bien au large du détroit d'Ormuz pour ne pas encaisser de pertes. Cette phase vient de se refermer. Le 15 juin, Donald Trump a officialisé, vous en avez parlé hier, sur son réseau Truth Social, l'accord en fait avec les Iraniens, avec peut-être une anecdote, je ne sais pas si on vous l'a raconté, mais les Iraniens ont laissé dire dans la foulée qu'ils avaient joué la montre le plus tard possible dans la nuit du 14 au 15, de sorte qu'avec le décalage horaire, cet accord ne serait pas daté du 14 juin mais du 15, pour ne pas faire le cadeau à Donald Trump de signer cet accord de paix, entre guillemets, le jour où le président fêtait en grande pompe son 80e anniversaire, et pour ne pas donner, en fait, sur un plateau à Donald Trump l'argument qu'il présente aujourd'hui au G7 d'Évian, qu'il présente depuis hier soir, « Je suis l'homme de la paix ». Donc on voit bien, et je trouve que cette anecdote est assez révélatrice de l'état d'esprit avec lesquels les successeurs des Mollahs, donc les gardiens de la révolution, les généraux, les faucons qui ont remplacé en fait la quarantaine de dirigeants iraniens ciblés et neutralisés surtout par les Israéliens, l'état d'esprit avec lequel ces nouveaux dirigeants iraniens ont abordé cet accord. C'est-à-dire que eux, comme Donald Trump, eux pensaient qu'un mauvais accord valait mieux que la reprise de la guerre. Mais finalement, le message envoyé, c'est sans céder sur l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'on lise les bonnes informations fuitant dans la presse israélienne ou les bonnes informations, tout cela entre guillemets, fuitant dans la presse, israélienne, pardon, ou américaine, on voit bien en fait que la question principale essentielle mise en avant par les Américains et les Israéliens pour cette guerre préventive, la question du nucléaire, demeure posée. Les États-Unis, les officiels américains, comment dirais-je, affirment que les Iraniens ont renoncé au principe de l'arme atomique, du nucléaire pour l'arme atomique, au principe même de pouvoir un jour se doter de l'arme atomique. Et les Iraniens disent qu'il n'y a pas du tout cela dans cet accord qui ferait, ce pré-accord ou ce début d'accord qui fait une page et demie. En fait, où on en est aujourd'hui et ce que l'on comprend aujourd'hui, sachant que beaucoup de commentateurs en fait font déjà un rapport de force, un balance of power, comme disent les Américains. Simplement, il y a quand même un petit détail, c'est que personne ne connaît le détail de l'accord, le texte n'a pas été publié. Donc par exemple, quand mon ami Pierre Lelouch signe une tribune hier matin dans le Figaro expliquant que les Américains essuient un désastre stratégique, en argumentant l'ensemble, en posant l'ensemble des conditions qu'ils auraient obtenues, moi je lui dis prudence cher Pierre Lelouch, car en fait vous n'avez pas vu l'accord et moi non plus. L'accord sera sans doute, d'ailleurs Donald Trump a dit hier au sommet d'Évian, donc au sommet du G7 d'Évian, auquel il est arrivé en fin de journée, jour heure de France, il a dit « Sans doute que nous publierons l'accord complet à l'occasion de sa signature officielle, vendredi 19, à Genève, en présence pour la partie iranienne de Mohamed Bagher Ghalibaf, qui est le patron du Parlement iranien, de Abbas Araghchi, qui est le ministre des Affaires étrangères iranien pour la partie iranienne, et pour la partie américaine, de manière assez certaine, Jed Evans, qui est le vice-président américain, qui est l'homme qui était finalement le plus réticent à cette guerre préventive américaine, même s'il était resté silencieux. Mais on a ici, vous et moi, commenté la manière dont Jed Evans a évolué au cours de cette guerre, notamment avec ses fans MAGA. Et peut-être il y aura Trump. Trump laisse planer le doute sur sa venue à Genève. Et c'est à ce moment-là, pour accorder ce que je souhaitais dire, que l'on, que l'on découvrira la teneur de cet accord. Ce que l'on sait, et en quelques mots, puis ensuite je vais vous laisser me relancer, car je sais que je vous vois bouillir d'impatience. Ce que l'on sait. Cet accord finalement, et cela confirme l'analyse que j'avais esquissée depuis plusieurs semaines à cette antenne, c'est que l'urgence pour finalement les deux parties était de réouvrir le détroit d'Ormuz. Pour les Américains, parce que en fait, la fermeture du détroit d'Ormuz réalisée par les Iraniens ont pénalisé en premier lieu tous les alliés ou tous les États réassurés par les États-Unis en premier lieu, donc toutes les monarchies évidemment pétrolières voyant leurs exportations de pétrole, de gaz bloquées, mais aussi tous les alliés des États-Unis dans le Grand Pacifique, là où selon Washington va se dérouler le véritable et le grand affrontement futur géopolitique avec la Chine. Donc je veux parler de l'Inde, je veux parler de tous les la Malaisie par exemple, la Corée du Sud, le Vietnam, la Thaïlande, tous ces pays-là ont souffert en premier lieu du choc de la fermeture du détroit, d'une part par la privation de pétrole, deuxièmement par les obstacles en fait au tourisme qui alimente en grande partie les économies des États d'Asie du Sud-Est, et puis troisième souffrance, celle ayant consisté pour les Américains à prélever sans préavis les armes stratégiques permettant d'avoir une réassurance de ces petits États face aux deux monstres de la région dotés de l'arme nucléaire, la Chine et la Corée du Nord. Ces armes, c'est les missiles Patriot, les batteries THAAD, dont les États-Unis manquent absolument et qu'elles ont dû rapatrier en urgence dans la région pour protéger au plus près les monarchies du Golfe et réapprovisionner leur propre stock stratégique. Donc c'est une, c'était un, une, évidemment je ne parle même pas des économies européennes qui souffrent, l'inflation aujourd'hui est 3,2% dans la zone euro, notre bien-aimée Christine Lagarde, patronne de la BCE, vient d'augmenter à nouveau le taux directeur du coût de l'argent à 2,25% si ma mémoire est bonne, donc c'est la preuve par les chiffres que les économies de la zone euro sont très en panne. On pronostique aujourd'hui une croissance moyenne dans la zone euro de 0,9%, avec une moyenne inférieure pour la France, puisque les autorités, la Banque de France vient de réviser en fait sa prévision de croissance qui serait inférieure à 0,9% pour l'année 2026. Donc vous voyez le tableau. Donc cette réouverture qui est effective immédiate depuis la signature, mais qui va être progressive. Il y a encore à peu près 500 ou 600 navires bloqués en fait dans le détroit d'Ormuz. Avant de pouvoir sortir, celles-ci vont devoir passer sous les fourches codines des autorités iraniennes, puisqu'elles vont devoir emprunter des chemins balisés, car je vous rappelle qu'il y a encore l'incertitude
sur les mines.
De minage, personne n'en a donné la preuve, mais enfin, tant que l'incertitude pèse, tout le monde fera comme s'il y avait des mines dans le détroit. Donc d'une part, ils passeront par des chenaux balisés, et puis deuxièmement, il faut aussi que les assurances réagissent positivement, ce qui devrait être le cas, et donc tout cela va mettre des mois à se normaliser. Toujours est-il quand même que les économies mondiales ont bien réagi, puisque les bourses de New York, de Paris, de Tokyo, sauf celle de Londres, ont remonté, et le cours du pétrole est redescendu hier aux alentours de $82-83, c'est-à-dire je vous rappelle que fin avril il avait connu un pic à $126 le baril, plus 68% par rapport au cours d'avant le 28 février. Et donc là, nous sommes à peu près redescendus au cours d'avant le 28 février à un chouïème près. Donc tout ça est quand même très positif. C'est l'effet immédiat et c'est le point essentiel de cet accord. On connaît deux points suivants. Il y a deux autres points importants. Le deuxième, c'est que les deux parties se sont engagées à cesser toutes les hostilités dans la région du Moyen-Orient. Je cite, y compris le Liban, on pourra y revenir. Et la troisième chose que l'on connaît avec certitude, c'est que les deux parties se sont engagées dans les 60 prochains jours à démarrer des discussions sur les deux points fondamentaux du différent américano-iranien. D'une part, quid des installations nucléaires iraniennes et des fameux 440 kg d'uranium enrichi à plus de 60% qui sont piégés dans les sites bombardés par les Américains, d'une part. Ça, c'est pour les exigences américaines et les exigences iraniennes. Quid de la levée des sanctions progressives, à la fois des sanctions américaines et des sanctions onusiennes, sur l'économie iranienne, puisque c'est l'exigence principale de l'Iran, récupérer en contrepartie de l'ouverture du détroit d'Ormuz, du cash, pour restaurer l'économie iranienne qui était déjà en mauvais état avant les bombardements et qui aujourd'hui évidemment est dans un état catastrophique. Voilà, et je vous laisse reprendre le micro, mais il y a plein d'autres choses à dire sur toutes les hypothèses et les scénarios et les exigences qui semblent être associé à cette réouverture.
Ben, merci Marie-Dec Raffray, 16 minutes.
Ça passe trop vite, Richard.
Ça m'a paru effectivement aller le temps d'un éclair. Deux questions, n'hésitez pas à y répondre encore plus vite que le battement d'une aile de papillon. D'une part, vous dites les deux parties, autrement dit les États-Unis et l'Iran. Évidemment, il y a une troisième partie, c'est Israël. Israël qui, semble-t-il...
Alors, à la question, je réponds oui.
Parfait, Israël, semble-t-il... été écarté des négociations d'une certaine manière, même si Donald Trump a mis en avant l'ensemble de ceux des parties prenantes. Et Israël a l'air de considérer, en tout cas par la bouche de certains des responsables du gouvernement, qu'il faut décorréler totalement le cas du Hezbollah du cas de l'Iran. Autrement dit, que l'offensive contre le Liban va continuer et que certains même expliquent qu'ils ont pris pied au Liban, qu'ils y resteront. Enfin, autrement, est-ce que véritablement le Liban va être l'une des parties sacrifiées sur l'autel d'Israël ou pas?
Alors, oui, c'est une possibilité. Donc, vous avez raison, Israël n'est pas partie prenante à l'accord. Et c'est d'autant plus vrai que Netanyahou l'a dit, son ministre de la Défense l'a dit, nous ne sommes pas partie prenante. Donc, ils ont dit, donc, nous ne nous sentons pas tenus par l'accord. Ce qui est une formule rhétorique, puisqu'on sait que dimanche, Netanyahou, qui a tout fait pour faire reculer le plus longtemps possible le temps de la signature, pour pouvoir garder les mains libres en quelque sorte dans son aire géopolitique de proximité, a dit nous ne nous sommes pas tenus, donc cet accord ne nous concerne pas, donc nous resterons au Liban le temps qu'il faudra. Tsahal restera au Liban le temps qu'il faudra pour assurer notre sécurité. C'est pas Netanyahou qui l'a dit, c'est son ministre de la Défense qui est un proche et un idéologue. Mais je disais donc que Israël avait bombardé dimanche matin Beyrouth, ce qui a valu à Netanyahou un coup de fil incendiaire. Le deuxième coup de fil incendiaire de Trump en lui disant « arrête tes conneries ». Clairement, c'est les propos, enfin c'est la tonalité des propos qui ont été échangés. Ce qui a valu d'ailleurs au Qatar une mission de 15 heures supplémentaires de négociation à Téhéran pour apaiser les choses. Ce que l'on comprend en fait, c'est, encore une fois, sans avoir eu accès à l'accord, c'est que... Contrairement aux exigences israélo-américaines du 28 février, la question du rapport entre l'Iran et ses mandataires dans la région du Moyen-Orient n'est pas abordée, n'est pas un sujet de cet accord préliminaire. Cela veut donc dire que l'Iran, finalement, conserve la possibilité juridique par rapport à cet accord, d'activer ses alliés dans la région. Évidemment, la question est-ce qu'ils ont aujourd'hui intérêt à le faire? Alors, ce que l'on comprend, c'est que, d'une part, Donald Trump pourrait laisser cet os libanais à ronger à Israël, dans une certaine mesure, c'est-à-dire continuer, si vous voulez, à faire ce que vous voulez globalement au sud du Liban, mais pas touche à Beyrouth, parce que Beyrouth, c'est un symbole, et l'Iran ne le permettrait pas, ce serait une ligne rouge. Tout ça, c'est non écrit. Et de l'autre côté, ce que l'on comprend, c'est que dans les 60 prochains jours, l'Iran va donc négocier, sur le fond cette fois, sur le nucléaire, sur le balistique, sur les sanctions. Et ce que l'on comprend, c'est que l'Iran, finalement, conserverait non plus... l'énorme chantage du détroit d'Ormuz, mais un morceau de pièce du puzzle lui permettant de continuer à faire pression en fait sur Israël pour faire pression sur les États-Unis dans le cadre de cette négociation. Ce que l'on comprend. Et du coup, là où vous avez raison, je trouve que le qualificatif que vous avez employé est le bon. Le Liban pourrait être. C'est une des hypothèses. Passer par pertes et profits d'une paix durable construite américano, un peu israélo et iranienne. C'est un des scénarios qui se dessine, sachant que par un revers assez amusant du sort. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des élections israéliennes législatives, sans doute début novembre ou fin novembre en Israël. Netanyahou, hier même, ce n'est pas un hasard, a déclaré sa candidature. Je vous rappelle qu'il était déjà Premier ministre en 1993. A déclaré, il a plus de 80 ans, il a déclaré sa candidature et qu'il est aujourd'hui accusé par sa propre opposition, réputée dans le journal Le Monde nuancer son opposition, le terme m'échappe, mais une opposition qui n'est pas extrémiste. Voilà, donc,
modéré,
je cherchais le terme, merci, c'est le monde qui le dit. Hein. Une opposition ralliant, enfin articulant les centristes et la gauche centriste, si vous voulez, la droite centriste et la gauche centriste. C'est cette opposition aujourd'hui qui a beaucoup de chances de gagner, qui accuse Netanyahou d'avoir tout lâché à Trump et qui l'accuse de ne pas avoir enclenché une guerre définitive, globale, complète contre le Hezbollah. Donc vous voyez que la politique intérieure israélienne pourrait réserver des surprises au Liban. Et pour essayer d'être complet et nuancé dans cette esquisse d'analyse qui est ultra complexe, hein, le point suivant, c'est que les États-Unis et Trump conservent une Gundelincher, une arme fatale contre Israël, car ce sont eux qui réapprovisionnent Israël en armes. Mais évidemment, faire comme la France qui aujourd'hui refuse aux avions israéliens transportant des armes de survoler son territoire, ça me paraît juste impossible, sachant que les États-Unis, c'est dans leur ADN de leur politique internationale, un soutien inconditionnel à la sécurité d'Israël. Donc en arriver jusque-là pour pouvoir retenir la main des Israéliens au Liban me paraît quand même un scénario assez hypothétique.
Alors, donc, on a quand même l'impression que Israël a dissipé tout son crédit international. Voilà, après le 7 octobre, évidemment, ce pays victime d'un massacre absolument odieux de la part des islamistes et du Hamas était mis en avant comme étant vraiment un pays martyr. Là, maintenant, c'est plutôt le Liban qui a l'air d'être un pays martyr. Israël qui est jeté, comme d'habitude, dans une démonstration de puissance incroyable et efficace.
Efficace, oui.
Et on le voit bien. Et malgré tout, on a l'impression, et ils le disent eux-mêmes dans le discours des anciens militaires ou des militaires actuels, entre ce qui avait été promis, ce qui a été réalisé, c'est minable, et vous avez raison de le souligner, l'opposition modérée est en train de dire, en fait, le problème de Benjamin Netanyahou, c'est qu'il entame des guerres qu'il n'est pas capable de conclure, et toutes les guerres qu'il a entamées, voilà, elles sont perdues dans les sables, alors qu'il faut maintenant faire des guerres beaucoup plus rapides et beaucoup plus décisives. Donc, on a tout lieu de craindre, au contraire, que la disparition de Benjamin Netanyahou de la sphère politique israélienne n'aboutira absolument pas un apaisement, mais au contraire libérera des énergies tout aussi vindicatives.
C'est comme en France, dans ce match de politique intérieure, tous les coups sont permis. Et donc on a toutes les outrances possibles. Et je ne suis pas certain qu'il faille en tirer des analyses pour la suite de la politique internationale post-Netanyahou. Ce qui est clair en revanche, c'est qu'il y a deux Israël. Il y a Israël officiel qui, par ses déclarations, par ses actes, et qui sont liés en fait aux exigences de politique intérieure. Je vous rappelle que Netanyahou est tenu par son alliance avec les extrémistes de la droite israélienne, qui sont quand même des gens presque fous en fait, quand on écoute leur... je vous rappelle quand même que certains, il y a quelques mois, disaient qu'il fallait lancer une bombe atomique sur le Hezbollah, ce qui évidemment est une bêtise absolue.
C'est ce qu'ils appellent des frappes chirurgicales, je crois.
Et donc en fait, ces gens-là sont aussi dans une posture idéologico-militaire qui consiste à se donner les moyens de gagner le plus de temps possible, de reculer les échéances, de reculer les contraintes à venir sur manœuvre militaire, si vous voulez. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec les négociations irano-américaines, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, ils ont tout fait, je ne sais pas s'ils l'ont parvenu, ils ont tout fait pour saboter en fait les avancées, pour que les négociations reviennent à leur commencement, tel le rocher de Sisyphe. Et donc on assiste d'une part à ça. D'autre part, et les officiels israéliens le disent en off aux journalistes avec qui ont la chance de parler avec eux, ils le reconnaissent pas publiquement, mais ils le disent, on me l'a dit, ils reconnaissent que la situation militaire de l'Iran n'a plus rien à voir avec celle du 28 février. Ils disent aujourd'hui que l'état du programme nucléaire iranien et l'état de l'arsenal balistique iranien ne constitue plus une menace existentielle immédiate pour l'État d'Israël. Et ils disent qu'ils ont gagné beaucoup de temps, ils disent même plusieurs années de répit. Donc ils reconnaissent officieusement, dans les cercles discrets, ils reconnaissent officieusement qu'ils ont finalement atteint leur but, desserrer l'étau stratégique, l'étau de la menace iranienne. Et donc de ce point de vue-là, si vous voulez, ce n'est pas un échec des États-Unis, ce n'est pas un échec d'Israël, c'est plutôt une réussite.
Effectivement, d'un point de vue militaire, c'est plutôt une réussite. Voilà, d'un point de vue diplomatique, c'est une autre question. Merci beaucoup, Meredek Raffray, pour cette analyse. Et à la semaine prochaine pour la dernière, l'une des dernières analyses de cette saison de Ligne Droite.
À la semaine prochaine, Richard.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite. Et Ligne droite, maintenant, c'est avec Victor Robert, le président d'Academia Christiana. Bonjour Victor Robert. J'ai dit président, vous êtes directeur général, pardonnez-moi.
Tout à fait, cher Richard, mais ce n'est pas très grave. Je vous pardonne.
Alors, ce matin, vous voulez ouvrir votre chronique sur l'actualité récente d'Alençon, où il y a eu un banquet du Rassemblement National et qui a suscité évidemment quelques réactions.
Oui, tout à fait. Donc Alençon, c'est la préfecture de l'Orne, le département dans lequel j'habite. Et donc dimanche dernier avait lieu donc le banquet national donc de la fédération en présence de Julien Odoul. Et pour la première fois depuis des années, eh bien il y a eu une manifestation antifasciste qui rassemblait à peine 80 personnes, mais selon Ouest France, plusieurs centaines de participants. Et Ouest France n'a absolument pas couvert ce repas organisé par le Rassemblement National qui rassemblait, lui, quant à lui, beaucoup plus d'une centaine de participants.
Alors, d'un point de vue journalistique, on voit bien qu'il y a un biais de couverture entre la manière de survaloriser le nombre de manifestants prétendument antifascistes et de carrément passer sous silence le rassemblement lui-même.
Tout à fait. Et alors, en fait, le contexte d'Alençon est assez original en ce moment, puisque cette opposition, justement, à un banquet du Rassemblement National s'inscrit dans un contexte déjà un petit peu plus tendu, puisque Alençon, la nouvelle municipalité, eh bien, a décidé de bloquer les subventions à la fête d'ici et d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'était que la fête d'ici et d'ailleurs ? C'était une fête organisée par différentes associations plutôt connotées à gauche qui faisaient la promotion d'une immigration sans limite. Il y avait notamment la CIMAD, France-Palestine, Solidarité. Et puis, donc finalement, le refus de ces subventions à ces associations dans le cadre de cette fête eh bien, a fait que ces associations ont décidé d'annuler tout simplement la fête.
Donc sans argent public, pas de fête de France-Palestine Solidarité. Au-delà de ces arbitrages politiques, on voit bien qu'il y a des mutations profondes du côté d'Alençon avec ce genre de mouvement.
Tout à fait. Alors pourquoi je parle d'Alençon ? D'une part parce que c'est à côté de chez moi, mais d'autre part parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'emblématique dans la trajectoire que peut prendre une petite ville de province comme Alençon. Qu'est-ce que c'est qu'Alençon ? Vous savez, c'est une petite cité bourgeoise qui était la ville des époux Martin, les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle dispose d'un magnifique patrimoine, de beaux hôtels particuliers, mais ça fait 18 ans que la ville est gérée par une mairie socialiste avec un déclassement progressif de plus en plus profond. L'agglomération, finalement, est de plus, moins en moins peuplée. Depuis 1999, le nombre d'habitants ne fait que décroître, le nombre de commerces dans le centre-ville ne font que fermer davantage. Et donc, du coup, on a l'impression de se balader finalement dans une ville fantôme. Et puis ce qui est de plus en plus préoccupant, c'est aussi justement le développement du narcotrafic. Il y a un quartier à côté d'Alençon qui s'appelle Persaigne et qui fait régulièrement les titres de la presse locale, puisqu'il y a des fusillades, il y a donc des personnes qui se sont retrouvées mortes dans des appartements qui servaient à transformer de la drogue et du crack. Donc tout ça génère des violences urbaines et récemment, donc, il y a eu l'incendie de plusieurs vingtaines de véhicules à côté d'Alençon suite à des perquisitions saisissant donc, des narcotrafiquants.
Alors évidemment, avec cette situation totalement dégradée, les habitants d'Alençon ont eu une action totalement inédite. Ils ont décidé de voter non pas pour la gauche, mais pour la droite.
Oui, c'est voilà, ce qui a été assez surprenant lors des dernières municipales, hein, c'est vraiment la rupture avec 18 ans socialisme, puisque la liste d'hiver droite, donc de Sophie Douvry, a rassemblé 46,58% des voix, et le Rassemblement national, qui était jamais présent à Alençon, a fait quant à lui 20% avec un candidat âgé de moins d'une trentaine d'années. Donc la gauche s'est totalement effondrée, et ce basculement, bah, ça montre finalement que cette hégémonie culturelle de gauche à Alençon, mais comme ailleurs aussi en France, semble petit à petit perdre de sa dynamique. Et puis, ces tensions que j'ai évoquées en début de chronique montrent qu'il y a de plus en plus deux visions de la France qui s'opposent, qui s'accentuent avec peut-être de nouveaux clivages dans le monde qui vient.
Alors, c'est des tensions qui vont évidemment bien au-delà de la Normandie.
Oui, bah, si vous regardez ce qui s'est passé la semaine dernière lors du conseil municipal d'Ivry-sur-Seine en région parisienne, où un conseiller municipal du Rassemblement national a demandé de soumettre au vote un amendement qui interdisait le port du voile au sein du conseil municipal. Le président de séance donc, du Parti communiste français a refusé de soumettre cet amendement au vote. Donc le conseiller Rassemblement national en a conclu que puisque la laïcité était bafouée, il pouvait lui aussi prier en public. Et donc il a prononcé un « Je vous salue Marie » en sortant un crucifix en pleine séance. Alors, qu'on s'attache au fond comme à la forme de cette scène, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'elle dégage d'un point de vue symbolique. Hein, ça montre à quel point aujourd'hui le débat public se crispe autour de questions qui semblaient avoir un petit peu disparu du débat public, notamment la question de l'identité, la question de la laïcité, la question des repères civilisationnels. Donc tout ça finalement montre que de nouvelles lignes de fracture politique se dessinent en ce moment.
Alors, pour conclure, Victor Hubert, quels enseignements factuels les auditeurs de Courtoisie peuvent-ils retenir de cet ensemble de faits que vous nous avez présentés ?
Alors, comme je disais, voilà, de nouveaux rapports de force qui se mettent en place et qui peuvent peut-être préfigurer les débats lors de la prochaine élection présidentielle, mais aussi le retour d'une certaine forme de courage en politique, parce que ça fait des années qu'on attendait que des élus de droite osent retirer des subventions à des associations qui font la propagande de la submersion migratoire. Ça fait des années qu'on attendait que des élus de droite dénoncent une laïcité à géométrie variable. Dans le fond, je pense que ce qui manque le plus aux Français aujourd'hui, c'est le courage de faire face à une gauche qui va se radicaliser sans doute encore davantage et qui, elle, n'a jamais eu peur de la radicalité.
Merci beaucoup, Victor Hubert, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, cher Richard.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Oui, c'est exactement ça, c'est la revue presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles. Bonjour Richard, bonjour Franck, bonjour chers auditeurs.
Alors, en une du Figaro, on voit la photo de la cathédrale de la Dormition à Kiev en proie aux flammes.
Oui, alors une vraie tragédie hein, qui fait penser à Notre-Dame de Paris en feu. J'avoue que j'ai eu un peu le haut-le-cœur hier en voyant cette photo au moment où, après 22 heures, j'ai ouvert l'édition du Figaro de ce matin, car cette cathédrale construite au XIe siècle est le symbole du baptême de Kiev. Comme le confie l'essayiste orthodoxe Jean-François Colosimo, directeur des éditions du Cerf, interviewé par Solène Vary, cette cathédrale marque la conversion des Slaves orientaux au christianisme byzantin à une époque où Moscou n'existait quasiment pas. Dédiée à la Vierge, comme l'indique son nom, Dormition, hein, c'est l'équivalent de l'Assomption pour les orthodoxes, elle est aussi une Notre-Dame, elle est le joyau de la laure des grottes, la première grande fondation monastique à l'État inspirée par le mont Athos et appréciée et appelée à devenir un phare spirituel pour toute l'Eurasie. Alors elle était détruite par une explosion en 1941 au début de la Seconde Guerre mondiale. Elle est rebâtie à l'identique entre 1998 et 2000, mais elle reste alors reliquat de l'Empire tsariste, puis soviétique, aux mains du patriarcat de Moscou. Et Jean-François Colosimo explique clairement qu'en 2019, Bartholomé Ier, le primat de l'Église orthodoxe, a donné son indépendance ecclésiastique à l'Ukraine. Mais Vladimir Poutine et le patriarcat, le fameux Kirill de Moscou, qui lui est inféodé, ont refusé cette prise de liberté et ont maintenu leur personnel clérical en Ukraine afin de conserver un relais de propagande et d'espionnage de l'Ukraine libre.
Et quelle était la situation jusqu'à aujourd'hui ?
Alors c'est simple, hein, comme le rappelle Colosimo, les prélats moscovites ont finalement été expulsés de la cathédrale de la Dormition par un décret présidentiel en 2022, et Moscou crie depuis à la persécution religieuse, alors qu'il est clair que la plupart d'entre eux étaient avant tout des agents du FSB. Alors par ce geste, il fait la preuve de son indifférence barbare aux réalités les plus simples, écrit Colosimo. Il a frappé en son cœur la vie culturelle et culturelle de l'Ukraine tout entière, et c'est une espèce de réaffirmation maximale de son bellicisme intrinsèque, ajoute l'essayiste, porté jusqu'à l'incandescence. Main dans la main avec le patriarche Kirill, il réduit à néant le berceau de la foi dont il se revendique le défenseur. Voilà, c'est à lire dans le Figaro.
Et d'ailleurs, je me permets juste de rappeler que l'église, la cathédrale arménienne Sainte-Mère de Dieu et l'église Saint-Jacques de Stepanakert, dans le Haut-Karabagh, ont été rasées par les autorités azerbaïdjanaises, et qu'on en a beaucoup moins parlé.
Ça, c'est certain.
Voilà.
Ah oui, ça, c'est certain.
C'est bizarre. Ouais. En fait, de temps en temps, il y a des cathédrales qui comptent, et de temps en temps, quand c'est l'Azerbaïdjan qui nous fournit un peu de gaz, eh bien là, en fait, c'est beaucoup moins gênant.
Et celle-là n'est pas tout à fait détruite, hein, quand même. C'est un peu comme Notre-Dame. Alors, je vous conseille aussi de lire.
Oui, c'est ça. Il y en a une qui est totalement rasée, donc on s'en fout. Et il y en a une autre qui va être rebâtie, et donc c'est bien. Voilà.
Alors, je vous conseille surtout de lire. Il y a une double page consacrée à l'essayiste, vous savez, traducteur Georges Niva, qui est âgé de 90 ans, qui est intitulé « De l'amour de la culture russe à la défense de l'Ukraine, la quête de vérité de Georges Niva ». C'est rédigé par Laure Mandeville, qui est allé l'interroger dans son chalet en bordure de la Suisse genevoise au lendemain de la publication de sa traduction d'un recueil de l'ukrainien Vassil Stus, « Palimpsest, poésie et lettres du goulag », et ses amitiés avec Pasternak, Solzhenitsyn, sa découverte de l'URSS, je cite, la signification du tournant suicidaire de la Russie de Poutine en 2022. Voilà, tout ça est abordé dans cette formidable double page.
Alors, sinon, dans la presse, évidemment, ce qui occupe les gros titres, c'est cet accord irano-américano-israélien.
Oui, alors évidemment, tous les journaux continuent ce matin à traiter cette information qui est au cœur de la réunion du G7 à Évian. Pour Nicolas Bétou, à la une de l'Opinion, si le régime des Mollahs et des gardiens de la Révolution a démontré sa capacité de résistance face à la puissance américano-israélienne et son cynisme dans l'extension du conflit à ses voisins au reste du monde par le blocus pétrolier, le pays sort de cette guerre affaibli économiquement, diminué militairement. La menace iranienne a été atténuée, le péril existentiel pesant sur Israël a été réduit. État voyou, dictature théocratique, l'Iran a perdu en dangerosité. Alors pour Nicolas Bétou, les Américains ont fait le sale boulot. Au lieu de se pincer le nez, les Occidentaux pourraient au moins reconnaître cette réalité. Enfin, de toute façon, tout ça n'est pas encore signé. L'issue géopolitique est plus discutable, écrit Dominique Seux dans Les Échos. Tout ça pour ça est le commentaire le plus répandu chez les analystes. Il ne faut hélas pas croire le vice-président américain J.D. Vance qui promet que le Moyen-Orient en sortira transformé pour les 50 prochaines années. Alors de son côté, Philippe Gelli, dans son éditorial du Figaro, note que le peuple iranien qui fut encouragé à la révolte est abandonné à un régime encore durci par l'épreuve. Israël, aiguillon de Washington dans cette aventure, paye aussi le prix fort. La menace des Mollahs n'a pas disparu, mais sa capacité d'y répondre est désormais entravée, sauf à perdre son allié le plus précieux. Et puis en page intérieure du même Figaro, on lit qu'une autre guerre sera au programme ce mardi, puisque le président Volodymyr Zelensky est reçu par les 7. Il était question d'une rencontre bilatérale avec Donald Trump. Le président américain s'est félicité d'avoir eu une conversation téléphonique avec Zelensky et une autre avec Poutine dimanche. On va se concentrer là-dessus, a Evian ajouté l'autoproclamé roi du deal. On peut peut-être faire quelque chose en déplorant les 25 000 morts par mois de la guerre en Ukraine, je cite.
Alors, et ce soir à 21h, heure française, premier match des Bleus face aux Sénégalais.
Oui, alors sur le terrain, évidemment, ces Bleus jouent gros, écrit Pierre Chose dans son éditorial du Parisien. Champion en 2018, finaliste amer en 2022, pour Didier Deschamps d'abord. Donc c'est la dernière campagne après 14 ans de règne, un adieu rêvé en apothéose. Pour Kylian Mbappé, capitaine hanté par la finale perdue, au bout de laquelle son triplé n'avait pas suffi, en quête de l'étoile qui le rangerait parmi les plus grands, ce premier match dira beaucoup de l'allant des Bleus et donnera l'envie de vibrer un mois durant. Alors rien n'est joué, Allons, alors laissons monter la température et la fièvre avec, voilà, je cite. Alors, pas facile de rejoindre, Richard, la salle, si vous voulez, ce soir, rejoindre la salle de stade, enfin, le stade, pardon, de New Jersey, où aura lieu le match. Le Parisien raconte les galères rencontrées par les passagers de bus qui partent de différents points de New York pour $20, confrontés à des bouchons monstres. Une fois arrivés sur place, il faut encore marcher 15 minutes sans aucune signalétique. Le mieux est de prendre un train. Alors un train à Penn Station, en plein cœur de Manhattan, et qui mène au stade en moins d'une demi-heure. Le seul bémol, c'est que le billet qui coûte habituellement $10 vaut aujourd'hui $100. Ça me rappelle un peu les Jeux Olympiques, ça. Et puis l'option VTC n'est pas forcément la plus judicieuse. Vous comptez $300 aller-retour, bouchons compris. Et dernière info, le parking du centre commercial à proximité de l'enceinte du stade vous coûtera $225 l'après-midi. Ça fait cher le match.
On sent à quel point c'est un sport populaire. Puisque vous parlez du match France-Sénégal, que pensez-vous de la déclaration du président de l'Assemblée nationale sénégalaise qui explique que, quelle que soit la victoire, c'est l'Afrique qui aura gagné?
Ben voilà. Alors moi j'ai lu, je ne suis pas un commentateur sportif, mais j'ai lu que le Sénégal était le premier pays d'Afrique porté pour le football. Alors je mets le Maroc à part, mais dans l'Afrique noire, oui, c'est le Sénégal. Donc vous savez comment c'est là-bas, hein.
Enfin, on est bien d'accord. Ce qu'avait l'air de dire, c'est qu'il y avait pas mal de Sénégalais dans l'équipe de France.
Oui, je crois
que c'était le message politique qu'il entendait souligner. En fait.
Je les ai vus descendre de l'avion. J'ai cru que c'était l'équipe du Sénégal. Pas du tout, c'était l'équipe de France. Mais ça, cela dit, objectivement, quand je les ai vus sortir, et le seul qui n'avait pas de valise à la main, c'était Mbappé. Voilà, c'est pas de commentaire autre à dire.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions utiles sur le fait que le parking du centre commercial me coûtera $225. C'est la seule raison pour laquelle je n'assisterai pas à cette Coupe du Monde de football.
Mais tout ça pour dire que, comme que vous vous souvenez, à Paris, les tickets de métro qui avaient augmenté, enfin, tout avait augmenté à Paris pour décourager ceux qui avaient fait le voyage pour venir à Paris. Il y a eu quand même beaucoup de monde. Mais moi, je trouve ça quand même très curieux, cette façon d'augmenter en fonction de l'actualité qui est grossie dans le monde entier. Je trouve ça assez aberrant quand même.
Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup Gilles Brochat.
À demain.
Chers amis, c'est le moment de nous quitter sur YouTube et sur X, mais restez avec nous pour nous écouter à la radio. Voilà, on a un message, vous le connaissez. On est 1,5 million à écouter Radio Courtoisie chaque semaine. On est un peu moins de 20 000 à donner. Voilà, il y a certainement quelque chose à faire pour combler cet écart.
En tout cas, on est loin d'atteindre 1,5 million d'euros par semaine, contrairement aux 1,5 million des personnes qui écoutent cette émission. Essayez de prendre conscience que Radio Courtoisie ne vit que grâce à vous, et si chacun ne fait pas son effort en fonction de ses possibilités, eh bien Radio Courtoisie risque la mort, tout simplement, hein. Il faut être juste et clair. Soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne dès maintenant. Soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Voilà, et tout de suite, nous allons réécouter l'excellent entretien que Bertrand Saint-Germain avait accordé à Alexandre de Galzin. Faut-il interdire aux magistrats de se syndiquer ?
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler des magistrats. Voilà, une semaine, 10 jours à peu près après l'affaire Liana, bien sûr, de nombreuses questions traversent la profession. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est: faut-il interdire aux magistrats de se syndiquer ? Et cette question, on se la pose avec Bertrand Saint-Germain. Bonjour Bertrand.
Bonjour Alexandre.
Alors, je rappelle que vous êtes docteur en droit, auteur de nombreux ouvrages, dont La République des juges contre la nation et comment en sortir, voilà, aux éditions du Verbe Haut. Et alors là, vous avez écrit un article et réalisé un dossier pour l'Observatoire des décisions de justice. On va commencer par l'article parce que c'est le meilleur moyen de nous y emmener, je pense. Mais dans cet article, vous décrivez un petit peu l'hypocrisie du Conseil supérieur de la magistrature, donc pas un syndicat, le Conseil supérieur de l'ordre, dans le cadre de l'affaire Liana. Pourquoi ? Parce que ce conseil produit donc un communiqué sous les attaques, sous la pression. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que vous montrez que les magistrats qui prônent l'indépendance sont d'abord jugés par eux-mêmes.
Oui, ça c'est le plus symptomatique de ce communiqué, puisque finalement, le Conseil supérieur de la magistrature, qui dans ses différentes fonctions, est aussi le juge des juges. Eh bien, le Conseil supérieur de la magistrature rentre dans l'arène et explique que on ne peut pas mettre en cause les juges, que c'est mal, que les juges sont déjà super surveillés, super encadrés, strictement contrôlés, et que finalement, mettre en cause les juges, c'est mettre en cause la démocratie, et ça, on sait où ça nous a mené. Voilà, je le dis, ça peut sembler bête, mais c'est la ligne de ce que dit le Conseil supérieur de la magistrature. Le problème, c'est que cette déclaration, ce communiqué rendu la semaine dernière, est faux. Il est faux. Le premier point, qui est première erreur, premier mensonge du Conseil supérieur de la magistrature, celui-ci explique que les juges sont jugés, mais par une majorité de non-juges. Alors effectivement, quand on regarde le statut du Conseil supérieur de la magistrature, on voit qu'il y a 7 magistrats, dont 6 sont élus par les magistrats, sur des lignes syndicales. Ça pose aussi problème. Rappelons que dans des pays qui sont quand même de grandes démocraties, le syndicalisme des juges est interdit.
Je pense à l'Espagne. On reviendra un petit peu plus tard. Mais sur les 15 membres du Conseil de la magistrature, théoriquement, il y en a 7 qui sont des magistrats et 8 qui n'en sont pas.
Voilà, il y a 8 personnalités extérieures. Alors, simplement, quand on regarde le profil de ces personnalités extérieures, on a donc Elisabeth Guigou, on a 3 professeurs de droit, on a un avocat, et puis on a Madame Lottin. Mais Madame Lottin, qui a été au Conseil constitutionnel, exerçait, c'était son métier, c'est comme ça qu'elle est rentrée dans la carrière, elle était magistrat elle-même. On a Monsieur Tizium, qui est directeur de cabinet du président de la Cour européenne des droits de l'homme, très bien, mais son métier premier, c'est d'être magistrat. Et on en a un troisième qui est lui aussi magistrat, magistrat administratif. Donc en fait, alors, ce n'est pas tout à fait pareil, mais il faut savoir que le Conseil d'État, puisqu'il est membre du Conseil d'État, sera éventuellement juge des avis rendus par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui fait qu'on a en réalité 10 juges, magistrats, pour juger les juges. À cela s'ajoute un autre point, c'est que quand on regarde les feuilles de présence lors des réunions du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, eh bien ils ne sont pas 15, il y a fréquemment des absents. Or ces absents, ce ne sont pas les magistrats, ce sont justement les personnalités extérieures. Et donc techniquement, au lieu d'avoir 15 personnes, dont 8 qui ne seraient pas juges, on a dans chacune des décisions rendues de 7 à 10 juges et de 2 à 3 personnalité extérieure. Voilà la réalité. C'est un des nombreux mensonges du Conseil supérieur de la magistrature dans dans ce communiqué.
Donc en fait, finalement, les magistrats, c'est un petit peu la seule institution, la seule fonction à fonctionner en vase clos pour ce qui est de la justice.
Et très largement. Et d'autant que pour arriver jusqu'au Conseil supérieur de la magistrature, dans sa fonction de juge disciplinaire, c'est très long. C'est très rare, parce que le CSM explique aussi que c'est très fréquent. Alors, quand on analyse toutes les décisions rendues par le CSM, depuis qu'il a été institué en 1958, on a à peu près 380 décisions en 70 ans, quasiment, ce qui nous fait 6 par an, un peu moins de 6 par an. Donc, c'est pas une pression exceptionnelle.
Et puis, une décision, c'est pas forcément quelque chose qui est particulièrement contraignant. Je prends une histoire que nous avait raconté l'avocat Gilbert Collard ici à cette antenne il y a une semaine environ. C'est que un magistrat qui avait été mis en cause pour une affaire de plus ou moins de pédophilie, d'attouchement sur mineur, finalement avait simplement été réaffecté dans une autre sphère, enfin dans un autre lieu, et avait demandé à être affecté à la protection de l'enfance, ce qui avait été refusé heureusement, mais enfin...
C'est d'ailleurs là le deuxième mensonge de ce communiqué, c'est que le Conseil supérieur explique que les magistrats sont jugés strictement. Si on regarde sur les 15 dernières années, on épluche les décisions, et d'ailleurs je propose à chaque auditeur d'aller voir les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Elles sont en ligne, c'est très bien fait. Eh bien, depuis 15 ans, il y a eu 4 révocations simplement pour des faits particulièrement graves et sordides, on y reviendra peut-être. Et la sanction la plus fréquente, c'est le déplacement. Voilà, on prend le magistrat, on le déplace. Un exemple de la semaine dernière, ce magistrat chargé de la lutte contre les stupéfiants à Bobigny, patron du parquet stupéfiant, qui depuis 2019 était accro au chemsex et consommait de la drogue, c'est-à-dire finançait l'organisation mafieuse qu'il était censé combattre par ailleurs. Eh bien, ce magistrat a été sanctionné. Le Conseil supérieur de la magistrature relève que, à côté de ça, c'était qu'il avait quand même d'excellents états de service, et donc il est déplacé. Et un dernier exemple dont on a parlé aussi, un substitut du procureur de Grasse qui a été déplacé à Strasbourg. Alors lui, finalement, il se servait de son pouvoir pour rendre service aux amis. Mmh. Plainte pour escroquerie, ah, je classe sans suite. Mmh. Un ami poursuivi pour conduite en état d'ivresse, retrait de permis, non, je classe sans suite. Et plein d'affaires comme ça. Et celles-là, ce sont celles que l'on a pu prouver.
Ouais.
Parce que quand on poursuit quelqu'un ici, c'est un peu l'iceberg.
Ouais.
Pour qu'il y ait tous les éléments de preuve, il y a toutes les affaires qui passent sous le filet, sous le radar. Mmh. Donc oui, il y a un vrai problème de jugement des juges par le CSM.
Et alors, une des raisons de ces problèmes, c'est notamment la présence des syndicats, donc des syndicats dans la magistrature. Alors, dans la publication que l'Observatoire des décisions de justice réalise, donc vous publiez un dossier dans lequel vous attaquez cette syndicalisation des magistrats, mais dans le fond, pourquoi est-ce que les magistrats seraient la seule, enfin une des rares fonctions en fait en France à ne pas pouvoir se syndiquer?
Alors, à dire vrai, le problème n'est pas seulement la syndicalisation dans son principe, l'idée de défendre ensemble des intérêts professionnels existe, elle est naturelle, cela peut intervenir d'ailleurs sous une forme syndicale ou associative. En revanche, une des vraies difficultés, c'est lorsque l'on a, comme en France, des syndicats qui font œuvre politique, œuvre radicalement politique. Alors, c'est bien sûr d'abord le cas du syndicat de la magistrature, mais on trouve ça également à une moindre échelle à l'Union syndicale des magistrats. Et lorsque l'on regarde la juridiction administrative, qui traditionnellement était plus neutre, on sait aujourd'hui qu'il y a le petit frère du syndicat de la magistrature qui se présente, qui commence à exister dans la juridiction administrative. Mmh. Il s'appelle le JACI, J-A-C-I. Vous verrez, on entendra bientôt parler beaucoup plus de lui. Il était d'ailleurs à la fête de l'humanité avec le syndicat de la magistrature.
D'accord.
Oui, voilà. Oui. Et ça, ce syndicalisme politique, il est fondamentalement inacceptable, d'autant qu'il est important.
Mais en fait, est-ce que vous le critiquez, c'est une question évidemment un petit peu facile, mais est-ce que vous le critiquez parce qu'il est de gauche ou est-ce que vous le critiquez parce que c'est un problème en soi?
C'est un problème en soi. Alors évidemment, on est sur Radio Courtoisie, vous direz, mais bien sûr, s'il n'était de droite, vous ne vous ferez pas comme ça. Eh bien si, parce que en soi, qu'un magistrat ait un engagement politique radical, il ne s'agit pas seulement d'avoir des responsabilités politiques, un magistrat serait maire, s'il en a le temps, ou conseiller municipal d'un village de 80 âmes, ça ne soulèverait pas a priori de difficultés particulières. Mais là, on est sur des syndicats qui ont une ligne politique et qui vont sur le terrain politique, au-delà de la simple défense des intérêts de leurs adhérents. Mmh. Or, ici, c'est un véritable problème. On a dans différents pays, parce que dans l'étude, on présente ce qu'il en est à l'étranger. Eh bien, j'évoquais l'Espagne tout à l'heure. En Espagne, il est interdit de se syndiquer d'un point de vue constitutionnel. Il y a évidemment des associations professionnelles de magistrats. Certaines, d'ailleurs, sont à gauche, d'autres un peu plus à droite, d'autres plus libérales, d'autres socialistes, mais ce ne sont pas des syndicats en tant que tels. Cette même interdiction, une interdiction semblable, vous la trouvez en Roumanie. On la trouve dans de nombreux pays, avec cette idée que le magistrat doit d'abord rendre la justice. Il peut avoir, bien sûr, son point de vue sur les questions de société, mais il n'a pas à intervenir dans la vie politique. Et en France, là, on a dépassé toutes les bornes. Et d'ailleurs, le syndicat...
Parce qu'il y a quand même un devoir de réserve au moins léger de la part de ces magistrats. Et d'une certaine manière, ils l'appliquent plutôt. C'est-à-dire qu'on entend... C'est pas comme si on entendait des juges tous les matins expliquer à la radio ou à la télévision que, en fait, finalement, leur avis sur la politique, etc. C'est-à-dire que, finalement, ce qui est un petit peu pernicieux là-dedans, c'est que le syndicat de la magistrature ne fait pas non plus des professions de foi pour certains partis politiques. Mais on va dire s'engage sur certains thèmes de société.
Alors voilà, et puis ils font campagne, et puis le syndicat de la magistrature surtout donne le là. On sait que lorsqu'un courant d'idées...
C'est quoi, c'est 30-40% des magistrats?
Alors, 33% aux dernières élections professionnelles pour le Conseil supérieur de la magistrature, mais ça recouvre des différences selon que l'on voit le siège ou le parquet. Au parquet, celui qui va défendre la société, qui est confrontée au quotidien avec l'arrestation des délinquants et des criminels, la part du syndicat de la magistrature est plus faible. En revanche, lorsqu'on va vers les juges du siège, ça peut monter à 35, près de 40%. Ouais. Et là, ça pose un vrai problème. Parce que, et ça, irradie toute la magistrature. Lorsqu'il y avait discussion d'un des nombreux projets de loi immigration, tous les juges, tous les syndicats de juges, sauf FO magistrats, se sont prononcés contre le fait qu'il y ait des audiences par visioconférence dans les centres de rétention administrative. Mmh. Voilà, parce que c'était supposé porter atteinte à l'état de droit, on ne voit pas pourquoi. Mais ce sont des raisons techniques qui poussaient à ça, des raisons pour éviter le danger des transferts, les risques d'évasion. Mais non, là, les magistrats considéraient que ce n'était pas possible. Et on voit qu'il y avait derrière ça une volonté clairement idéologique. Mmh. Et on le voit encore sur l'appel à voter lors des présidentielles.
Mais vous voyez, d'un autre côté, Bertrand Saint-Germain, il est arrivé, nous, qu'on reçoive des magistrats ici. Par exemple, je pense à Pascal Pira, qui est aujourd'hui au Rassemblement National eurodéputé, ou même à Philippe Bilger, autre magistrat.
Retraité.
Mais eux deux, par exemple, c'est pas forcément des personnalités de gauche. Et ils avaient, en fait, plus que ça, ce qu'ils nous disaient, et il nous reste deux minutes pour conclure peut-être un petit peu là-dessus, mais ce qu'ils nous disaient, c'est que finalement, le milieu n'était pas non plus totalement envahi par la gauche, et qu'ils ajoutaient que, de manière générale, un des grands problèmes auquel fait face la magistrature, c'est un manque de moyens et un manque d'investissement qui, finalement, justifierait presque la présence d'un syndicat, mais justement pour pouvoir traiter suffisamment de dossiers et rendre des décisions de justice qui seront appliquées.
Bien sûr. Alors, le vrai problème, c'est cette politisation du syndicalisme. C'est pas le syndicalisme dans son essence de défense des intérêts professionnels. Ça, c'est assez légitime. Et puis même, le ministère a besoin d'interlocuteurs pour discuter de ses projets de réforme, de questions structurelles. Mais là, on a dépassé cette question. On a vraiment un syndicalisme politique, un syndicalisme qui s'auto-entretient, qui s'auto-juge. Pour ne donner qu'un exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, ses membres sont élus sur des listes syndicales. On sait que dans le projet de réforme de l'équivalent italien de ce Conseil supérieur de la magistrature, eh bien, il était proposé que les membres magistrats de ce CSM soient désignés par tirage au sort entre les volontaires. Donc, vous voyez, parce que cela aurait brisé cette logique d'appartenance syndicale qui, aujourd'hui, pose un véritable problème et qui posera plus encore un problème à ceux qui souhaiteront être les artisans d'une réforme demain.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Bertrand Saint-Germain. J'invite nos auditeurs à retrouver quand même votre article au sujet donc du communiqué mensonger du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi j'invite à aller sur l'Observatoire des décisions de justice de manière générale pour venir se procurer donc le dossier que vous réalisez avec Elisabeth Louvel, si je ne m'abuse.
Ça.
Voilà, je crois que vous ferez également une petite conférence ce jeudi. Enfin, vous avez un sacré programme. Merci d'être venu ce matin ici sur Ligne Droite pour parler de ce sujet, et on vous dit bien sûr à bientôt.
Et merci de votre accueil, bonne journée à tous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, ça y est, c'est presque fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant toute cette matinée. Restez avec nous. D'abord, on a un message hyper surprenant. On a besoin d'argent et...
Oui, on a besoin d'argent, Richard. Enfin, nous, quand on dit nous, c'est Radio Courtoisie, toute l'équipe de Radio Courtoisie, la vie, l'association, pour que nous puissions développer Radio Courtoisie. Et nous allons essayer de postuler pour avoir de nouvelles fréquences. Nous avons plein de projets en tête, mais nous avons besoin de financement. Et comme vous le savez, vous qui nous écoutez, vous êtes les seuls financiers de cette radio. Alors rendez-vous sans tarder sur soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne en fonction de vos moyens. Soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Merci, et avec tout cet argent qui va finir par tonner, sonnant et trébuchant, on va faire d'excellentes émissions comme celles que vous allez nous annoncer immédiatement.
Et oui, dans quelques secondes, les mardis de la mémoire d'Anne Colin pour Churchill et l'affaire du duc de Windsor, une enquête sur le Churchill politique avec Éric Branca, journaliste et écrivain. À midi, le libre journal des histoires de l'art et du patrimoine d'Olivier Doutrebente, l'art de la restauration des meubles au programme. À 17h, tout à l'heure, populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourges, Gabriel Katz pour son dernier livre, L'assassin de Pigalle. 17h30, restons courtois avec Richard de Sèze, qui est en face de moi et qui reviendra donc tout à l'heure. Grande émission ce soir avec Pas de Suisse à 10 millions, les raisons d'un échec avec l'homme politique suisse Oscar Freisinger et l'entrepreneur Benjamin de Disbach. Et en seconde partie, Plasturgie, une industrie en crise. 19h30, le libre journal de la vie française de Laurent Poultier Duménil pour les coups de cœur culturels de l'année. Et à 21h30, le libre journal de la réaction d'Hilaire de Crémier en compagnie de Jean Larmande, secrétaire général du Cercle Renaissance. Et ils reviendront sur le destin de l'Algérie à la fin du Second Empire.
Voilà, et nous, demain, nous recevrons, ou plutôt Alexandre de Galzin recevra, Roger Chudeau, Jean-Paul Brighelli et Thierry Tesson au fur et à mesure de la matinée pour parler éducation et donc échec.
Bonne journée à tous et à demain 7h.